Bonsoir, c'est ce jeudi que la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023-2024, commencé lundi pour les finalistes des humanités, a pris fin. C'est les épreuves d'anglais et de français qui ont clôturé ce test national. Ces évaluations ont concerné l'ensemble de la République démocratique du Congo avec presque 1 million d'élèves enregistrés. Pour la ville de Kinshasa, c'est la première ministre qui a officiellement lancé ces épreuves de l'examen d'État. L'inspecteur général de l'éducation et nouvelle citoyenneté a lui annoncé la proclamation des résultats de cet examen pour au plus tard la mi-août prochain. Quelle lecture faire du déroulement de l'examen d'État de cette année et quel bilan en dresser? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons Jacques Odia Musungai, inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Jacques Odia Musungai, bonsoir.
Bonsoir monsieur, bonsoir à tous nos auditeurs.
Dans cette émission également, Jean-Claude Mbabazé, bonsoir.
Oui, bonsoir Timothée, bonsoir aux débatteurs, bonsoir également aux auditeurs de la radio Okapi.
Dona Madimba pour ce soir. Jean-Claude Mbabazé, vous êtes président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Et enfin, Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education et coordonnateur de la campagne dénommée École Eza Mombongote. Serge Bondedi, bonsoir.
Bonsoir, je salue aussi tous les auditeurs et principalement les autres co-débatteurs et particulièrement le général Odia.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
C'était donc le clap de fin. C'est ce jeudi que la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023-2024, commencée lundi pour les finalistes des humanités, a pris fin en République démocratique du Congo. C'est les épreuves d'anglais et de français qui ont clôturé ce test national. Ces évaluations ont concerné l'ensemble de la RDC avec presque 1 million d'élèves enregistrés. L'inspecteur général de l'éducation et nouvelle citoyenneté a lui annoncé la proclamation des résultats de cet examen pour au plus tard la mi-août prochain. Que pensent les futurs étudiants du travail qu'ils ont opéré pendant cet examen d'État et quelles sont les chances de réussite? On écoute ici une mosaïque d'élèves rencontrés ce jeudi. Ils sont au micro de Mnosa Yama et Étienne Lissumbu.
Il y a eu plus de peur que de mal. De la plupart des finalistes du secondaire que nous avons rencontrés ce jeudi dans les rues de Kinshasa, sortant de leur centre d'examen, ils expliquent.
C'est 4 jours, mais 4 longs jours. De stress, de malaise et tout. Le premier jour, ça stressait un peu plus. Quand je m'ai passé mon cahier d'item, j'ai vite vu que là, ce qui était là, c'est ce que j'ai étudié pendant mon parcours scolaire. Donc, le stress et tout qu'on sort a disparu.
Au début, j'étais stressé, mais ça va.
Pourtant, des difficultés, ils en ont eu.
Le premier jour, c'était un jour très facile. C'était la culture générale. Deuxième jour, bon, c'était un jour vraiment compliqué. Comme on a vraiment étudié sur ça, vraiment, je me suis très bien débrouillé. C'était le cours d'option. Et le troisième jour, c'était un peu le cours des sciences avec un peu la mathématique, qui était un peu coriace. Mais on s'est débattu, on a très bien travaillé.
C'est bien passé, hein, Marie. Tout c'était l'anglais. Parce que je parle pas l'anglais, c'était un peu difficile avec l'anglais, mais avec le français. C'est bien passé.
Malgré tout, ils espèrent réussir brillamment.
Je m'estime avoir dans la 81 en tout cas.
Plus de 70%.
79%.
Après ce dernier jour d'examen, beaucoup se sont rendus dans des églises pour des actions de grâce. Les résultats, c'est pour mi-août au plus tard selon l'inspecteur général du ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté.
Jacques Odia Musungai, inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Quelle évaluation dressez-vous déjà à ce moment-ci du déroulement de l'examen d'État cette année, si possible les 4 jours concernés et dans la mesure du possible province par province?
Disons dans l'ensemble que ça s'est bien passé. Les 4 jours se sont bien déroulés comme l'a affirmé votre collègue tout à l'heure qui a eu son micro baladeur à travers la ville. Ça s'est bien passé, disons à 90% ou même 95%, c'est une réussite.
Là, vous parlez de Kinshasa seulement ou bien vous parlez dans l'ensemble du pays?
Je parle de l'ensemble du pays, l'ensemble du pays parce que j'ai eu résultats près de 4. Il y a quelques provinces qui n'ont pas encore envoyé des résultats. pour des problèmes de communication, hein. Les réseaux sont parfois perturbés. Mais comme je le disais, à plus de 95%, nous avons les échos, les rapports intérimaires, c'est que tout a bien marché. Mais nous n'oublions pas que quelques petits couacs, quelques petits problèmes dans des zones à conflit. Ce matin, par exemple, le dernier jour, il y a eu un centre où les élèves ont dû quitter précipitamment parce que il y avait de bruit de bottes. La journée a été gâchée pour ce centre-là. Plus ou moins 3 centres, hein, effectivement, du côté de Massissi, là-bas. Et voilà. Mais pour le reste, ça s'est bien passé. Mais également, dans le même coin, le premier jour, je crois, oui, le premier jour, il y a eu le même bruit de bottes, mais ça s'est atténué et les élèves ont dû reprendre leur place au sein des salles d'examen. Et ça s'est bien déroulé par la suite.
Alors, monsieur le...
Au début, c'était plus de peur que de mal, mais ils ont repris. Mais c'est aujourd'hui que c'était un peu plus sérieux. Et voilà.
Jacques
mais
Audia...
pour le reste, ça s'est bien passé. Allô?
Jacques Audia, vous évaluez à 75%, ça ravit la population, si tel est le cas, c'est une très très bonne chose. Mais comment vous avez réussi à organiser ces examens avec un taux estimé à 75% de réussite, de bonne administration de ces examens, alors qu'on sait que le pays, dans 3 ou 4 provinces, vit dans une grande insécurité, où parfois les populations se sont déplacées, et où les populations ont du mal à sortir en toute sécurité.
Eh bien, les efforts de tout le monde, les efforts du gouvernement, les efforts de tous les autres acteurs provinciaux, les acteurs également, il faut le citer, il faut compter les parents parmi eux, et mais également les élèves qui se sentent déterminés à aller de l'avant et à passer leurs épreuves. Donc dans l'ensemble, c'est cela. Mais également, il faut souligner que même dans les zones à conflit, nous avons compris que par-ci, par-là, on a dû laisser les choses se dérouler normalement. Parce que l'examen d'État engage la République, engage, c'est l'avenir de nos enfants. Il ne fallait pas que des problèmes d'insécurité de ce genre-là puissent empêcher le déroulement de ces épreuves.
Nous comprenons
donc,
très bien.
On a dû accepter.
Mm-hmm. Nous comprenons bien ce que vous voulez dire. Nous comprenons bien ce que vous voulez dire, mais dans le concret, monsieur l'inspecteur, l'opinion veut savoir comment, par exemple, pour être plus concret, comment, par exemple, vous avez réussi à faire passer les épreuves tranquillement dans la paix, dans le Massissi, à Rutshuru, à Kanyabayonga.
Oh ben, la sensibilisation, les appels au calme, les appels à regarder l'avenir de nos jeunes compatriotes. Bon, je crois que ça a joué sensiblement, il faut le reconnaître. Nous avons préparé, nous, le questionnaire. Les cahiers d'items, les mâles sont amenés dans tous ces centres-là, il n'y avait pas de problème. Nous osons croire que la conscience d'un chacun a pu jouer. Je ne vois pas, il n'y a pas de miracle. Si ça continue ainsi, c'est que ça ira, qu'on parle du passé. Rappelez-vous, même pendant la période 1+4, ou même avant, où il y avait insécurité, les épreuves de l'examen d'État ont eu lieu. Parce que les gens ont accepté, tout le monde, acteurs politiques, comme... acteurs sociaux, tout le monde a compris la nécessité de faire passer les épreuves et l'examen d'État.
Alors,
je crois aussi aujourd'hui cela a joué et voilà.
Le
résultat, c'est cela.
Nous avons appris tout de même que dans certains centres, les items, hein, les enveloppes des épreuves n'étaient pas encore arrivées jusque midi. Il y a un ou deux cas, par exemple, à Kinshasa, ici même dans la capitale, où les élèves ont commencé leurs premiers examens, par exemple, après-midi. Qu'est-ce qui a expliqué cela et est-ce que malgré tout, ça s'est quand même bien terminé?
Ça s'est bien terminé. Ah non, ça il faut pas dramatiser. Et vous savez, c'est un travail humain. C'est lui qui présente les effectifs. Je donne votre exemple. Si vous dites vous êtes 5 journalistes aujourd'hui, moi je prends bonne note, j'envoie 15 cahiers pour les 5 journalistes. Mais le lendemain, s'il y en a qui se sont inscrits cette nuit ou ce matin, il faut ajouter 2 cahiers. Nous appelons ça ce problème de pénurie. Donc c'est qu'il y a eu absence, il y a eu un manque de cahiers pour ce centre-là, mais ça n'a pas posé de problème. Heureusement que c'est à Kinshasa et nous étions tous au travail, nous avons dû imprimer d'autres cahiers le plus vite possible et ça s'est déroulé sans problème. C'est vrai, c'est stressant pour ces candidats qui attendaient, mais les choses sont venues à la normale. C'est pas tellement un problème. Ça s'est passé, ce n'est pas la première fois. Imaginez-vous, c'était pire si c'était un coin comme Bossobolo, comme je ne sais pas, au-delà même de Kanyabayonga ou je ne sais pas, encore plus loin dans le Katanga, dans le Fonfin, ce serait grave. Mais heureusement, c'est à Kinshasa. C'est un problème de pointage. Le nombre, les effectifs n'ont pas été bien communiqués à temps. Et on a résolu le problème. C'est pas tellement grave. Il faut pas dramatiser.
Inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jacques Odia Moussounaï, confirmez-vous que cette année aussi, les épreuves ont été toutes en mode question à choix multiples?
Oui. Ça, c'est en session ordinaire, c'est à choix multiples. Mais avant cette session, nous avons ce que nous appelons la hors-session, c'est-à-dire ça précède la session ordinaire. Et là, vous avez des questions de traditionnelles, ce sont des questions ouvertes. Ça s'est fait depuis le mois de mai, ça s'est terminé, il n'y a pas de problème. Donc, cette année, comme c'est 4 journées, comme toutes les années d'ailleurs, ces derniers temps, c'est 4 jours. Question à choix multiples pour toutes les options.
Et vous maintenez que selon la pédagogie pour les Congolais, pour les jeunes Congolais, c'est le meilleur choix à opérer parce qu'entre-temps, il y a des critiques qui poussent à laisser entendre que les élèves sont de moins en moins aptes aujourd'hui à cause notamment de cette méthodologie des questions à choix multiples. Certaines langues souhaiteraient revenir à la formule d'avant, où il y avait des rédactions à faire et des textes à argumenter. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ils n'ont pas tort de le dire. C'est une réflexion. On est en train de la développer. Un jour ou l'autre, peut-être on aboutira à ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, il faut encore continuer avec ce système-là. Il est profitable à tous nos candidats, mais également à tous les opérateurs qui interviennent, parce que ça réduit le temps de correction. Effectivement, comme ils le disent, on ne sent pas, on n'évalue pas tellement les compétences avec des questions à choix multiples. Il y a le hasard qui intervient, il y en a qui sont fatigués et qui répondent comme ils veulent, cela est vrai, mais on a le temps de faire, parce que c'est en deux parties, comme nous le disons, la partie traditionnelle, on a le temps d'évaluer les compétences, hein, comme vous le dites, bien avant, dans la hors-session. Mais, voyez-vous, plus les années passent, plus le travail devient assez complexe, parce que le nombre de candidats augmente. Mais avec la correction, avec le type à choix multiple, les choses sont quelque peu faciles. Soyons pas tort, comme je l'ai dit, la réflexion continue, un jour ou l'autre on y arrivera. Mais attendez, la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays à adopter le système à choix multiple. Nous avons calqué quelque part, même s'il y a quelques améliorations de notre côté. Y va, on verra, la réforme pourra nous amener à ce que vous pensez aujourd'hui.
Malgré tout, vous pensez que les élèves qui terminent en 6e avec cette méthodologie auront des compétences suffisantes pour affronter la suite de leurs études, et malgré tout, vous attendez à quel type de réussite, à quel taux de réussite par exemple cette année?
Le problème n'est pas au niveau de questions à choix multiples. Le problème est au niveau des enseignements apprentissage. Est-ce que les méthodes que nous utilisons pour enseigner conviennent encore? Est-ce que les enseignants eux-mêmes sont bien compétents? Est-ce qu'ils ont le profil qu'il faut? Voilà, c'est ça le problème. Et on y pense. Regardez, prenez 10 ans. Je ne sais pas, vous personnellement, vous êtes de quelle promotion, mais je crois que vous avez participé à ce système à choix multiples. Et beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui, je ne parle de ceux qui ont au-delà de 70 ans, mais ceux qui au moins ont participé à l'examen d'état de type à choix multiples. Vous n'allez pas me dire qu'ils ne valent pas la peine. Le problème, c'est qu'effectivement, avec le temps, il y a d'autres antivaleurs, il y a d'autres pesanteurs qui font que le niveau, le système éducatif ne soit pas celui auquel vous vous attendez. Cela est vrai. Donc, ce n'est pas tellement le problème de questions à choix multiples, c'est peut-être l'un des problèmes, mais il faudrait réfléchir davantage. Je répète, c'est le problème de système, de contenu de programme également et des méthodes d'enseignement. Et voilà.
Merci Jacques Moussounaï, vous restez avec nous dans la suite de ces échanges. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, après 4 jours d'examen d'État, qu'avez-vous monitoré? Quelle évaluation vous faites de l'examen d'État 2023-2024?
Oui, merci beaucoup, Donat Madimba, pour la question. Donc, je voudrais d'abord commencer par remercier donc, l'État congolais qui a compris qu'au Nord Kivu, il y avait des difficultés, en tout cas à cause de la guerre, et qui a accepté quand même de prendre en charge tous les frais des examens d'État au niveau de la province. Sinon, pour revenir à votre question par rapport à la passation des examens, il faut noter qu'au Nord Kivu, en tout cas, surtout dans les zones où il y a des affrontements, il y a eu beaucoup de difficultés. Et donc, c'est pourquoi donc il y a beaucoup de centres d'abord qui n'ont pas fonctionné. Il y en a d'autres qui ont été délocalisés. Donc, je peux dire que, par exemple, dans le Rutshuru, le centre qui était prévu à Kibirizi et même à Kanyabayonga n'ont pas fonctionné et ont été délocalisés vers le territoire de Lubero au niveau de Kaina. Donc là, vous comprenez que non seulement des enfants qui sont déplacés, qui veulent être déplacés vers Kanyabayonga, et d'un coup qui doivent encore se déplacer vers Kaina, donc vous comprenez que ce n'est pas à tous les élèves qui ont pu atteindre les centres d'examen au niveau de Kaina, mais également du côté des Bambou. Il y a un centre qui était prévu mais qui n'a pas ouvert à cause des problèmes de l'insécurité. Et il y a le centre, par exemple, de Bichumbi, même de Mekikuku, qui n'ont pas fonctionné également, ou en tout cas certains élèves ont été délocalisés à la dernière minute vers Nyanzale. Et quand vous prenez le trajet de Bichumbi vers Nyanzale, c'est vraiment un calvaire avec des zones où il y a seulement les forces terroristes de M23, RDF. Donc bref, ce n'était pas du tout facile. Mais il faut noter également que du côté de Massissi, par exemple, comme l'a dit l'inspecteur, et du côté de Remeka, formant de premier, ou en tout cas à cause des bombes larguées par les terroristes de M23, des élèves n'ont pas pu terminer les examens. Mais aussi à cela s'ajoute également l'état psychologique de ces élèves. C'est-à-dire, faut comprendre que pour aller passer les examens comme il se doit, il faut être dans un état mental normal. Donc c'est des déplacés d'abord qui ont des difficultés d'abord pour étudier. Il y en a en tout cas qui n'ont pas eu de bonnes séances des cours. Il y a des endroits où les cours n'ont pas été en tout cas bien dispensés. Il y a des endroits où il y a des gens qui sont traumatisés par les effets de la guerre. Il y a même des endroits où on n'a pas vu même un seul inspecteur aller superviser par exemple les cours. Et bref, il faut en tout cas reconnaître que au Nord Kivu, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ces examens d'État, suite bien sûr à ce que nous connaissons dans la zone.
Alors, quand l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique parle d'un taux d'organisation de réussite avoisinant les 75%, et quand vous donnez les exemples où il y a eu des difficultés, notamment dans la province du Nord Kivu, vous pensez que c'est un pourcentage crédible ou vous nuancerez les choses?
Non, je nuancerai les choses. Peut-être c'est un pourcentage dans les villes, les territoires où il n'y a pas de problème. Mais si nous prenons seulement, par exemple, pour le Nord Kivu, je vais vous détailler, par exemple, pour seulement le territoire de Rutshuru, où Kibirizi, Kanyabayonga n'ont pas fonctionné, Bichumbi, Kikuku ont été délocalisés avec certainement un taux de déperdition. Mm-hmm. Donc il faut dire qu'en tout cas, je pense que c'est un taux peut-être qui est un peu élevé par rapport à ce que nous avons vécu sur le terrain ici au Nord Kivu.
L'inspecteur nous dira avant la fin de cette émission s'il y a des dispositions qui vont être prises, quel suivi est fait par rapport à cela. Mais vous-même, vous nous avez déjà expliqué plus ou moins les rattrapages qui ont été tentés par-ci, par-là. Mais pour là où les élèves, peut-être par à cause de la distance, n'ont pas pu rejoindre leur centre d'administration d'examen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour ces enfants-là? C'est tout perdu? Y a-t-il une communication que vous connaissez faite à leur endroit? Quelle est la situation par rapport à ça?
Bon, en tout cas, jusque-là, il n'y a aucune communication par rapport à ce défi. Et que donc, nous pensons qu'il y a, au Nord-Kivu, certainement, dans les trois territoires, surtout, d'ailleurs, donc, Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, un peu dans le Lubero, comme dans le Miliki, où il y a eu des problèmes aujourd'hui, pendant qu'il y avait des examens aujourd'hui, et un peu dans le Beni profond, il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup de taux de déperdition, où des enfants, en tout cas, qui n'ont pas pu avoir accès à ces examens, ne savent pas leur sort. Donc, ils sont obligés parfois, ils sont obligés de rater l'année carrément et reprendre l'année prochaine. Parce que jusque là, il n'y a pas l'annonce des dispositions prises pour le fait qu'est-ce qu'il y aura des rattrapages, est-ce qu'il y aura une session extraordinaire pour ces élèves-là. Donc, rien n'est annoncé jusque là.
Vous pensez quand même que malgré toutes ces difficultés, le taux d'organisation et de bonne organisation de ce rendez-vous scolaire dans la province du Nord Kivu, ça peut atteindre 80% quand même?
Bon, 80% c'est quand même trop, pendant qu'il y a trois territoires qui sont en difficulté sur six territoires. Donc, s'il y a trois territoires en difficulté, donc vous comprenez qu'on ne peut pas parler de 80%, ce serait quand même trop. Et donc, moi, j'évaluerais peut-être 65% au Nord Kivu, compte tenu de la situation que nous traversons, en tout cas dans les trois territoires, et en ajoutant aussi, bien sûr, les territoires de Beni, où il y a aussi des problèmes avec les EDF.
Merci à vous, Jean-Claude Mbabazé. Notre débat continue. Serge Bondé, secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education et coordonnateur de la campagne dénommée École Eza Mombongote. Bonsoir. Et quelle est votre évaluation du déroulement de l'examen d'État 2023-2024 en République démocratique du Congo, selon les éléments en votre possession?
Oui, merci pour l'occasion. Je crois que mes deux prédécesseurs ont effectivement dressé le tableau réel de la situation pour ne pas tomber dans la répétition. Mais cependant, s'il y a de certaines spécificités à donner, mais je crois que c'est sur parfois les questions qui nous intéressent, en ce qui concerne les aspects de la marchandisation. Mais dis-moi, effectivement, il faut faire observer qu'en tout cas, globalement, les choses se sont bien passées. Il n'y a pas eu effectivement d'incident majeur qu'on a pu documenter ou qu'on peut décrier en termes ou pour conséquence à entacher les évaluations, les épreuves pour toutes ces quatre journées. Ce que nous a intéressé, qui demandera certainement des corrections dans l'avenir, parce que le pays est immense, les réalités sont monstrueuses et nombreuses. Ce sont des questions qui ont certaines ramifications ou liens avec la qualité des épreuves. C'est notamment la question sur le critère et les choix des surveillants, parce que on a documenté notamment à Kalemi, plutôt à Kamina, le cas d'un chef de centre qui a failli être lynché par un groupe de surveillants pour cause le partage d'argent pour assurer la facilité à la tricherie. Toujours à Kamina, aujourd'hui, on a nos membres nous ont documenté aussi un fait des laboratoires. Peut-être aussi dans certains coins de la République, certaines personnes nous ont approchés pour nous dire que certaines personnes ont laissé la place, par exemple, à l'argent pour que l'école soit maintenue comme ou choisie comme centre. Ce sont des questions d'ordre organisationnel qui sont susceptibles d'impacter la qualité et la sincérité de l'évaluation, qui n'ont peut-être pas des liens directs avec l'organisation de l'épreuve, des épreuves qui, de manière globale, telle que le tableau venait d'être peint, est plus ou moins satisfaisant. Et jusqu'à 17h ici, on a aussi essayé de faire les tours d'horizon sur des cas qu'on note souvent après les épreuves. Je crois que la sensibilisation, les appels à la responsabilité, en tout cas jusque-là, ont aussi payé parce qu'on n'a pas jusque-là documenté des cas qu'on constate souvent, notamment de cas d'accident suite à l'ivresse, des cas ainsi de suite, de photos à caractère pornographique ou dépravant le mœurs. Jusque-là, on n'a pas assez, on n'a pas encore documenté. S'il y a aussi un autre élément à dire, c'est aussi la question de la qualité de certains chefs des centres. Cela demande à ce qui est la formation continue, mais il faut dire ici que l'État congolais ne finance pas assez les secteurs en termes des activités de formation, si ce n'est que la rémunération plus ou moins. Donc, pour mieux tenir les centres, aujourd'hui, je crois que l'inspection dispose d'un manuel des procédures qui a réglé beaucoup de questions, mais il faut que ces manuels soient à la disposition de tous les intervenants, ce qui nécessite un coût. Il faut former les gens pour que les différents intervenants soient à la hauteur. Mais la question la plus épineuse ici, c'est, comme je venais de dire, sur le choix des surveillants. En tout cas, ça, c'est un sérieux problème, parce que nous sommes la société civile thématique éducation. C'est vraiment une question où il faut beaucoup travailler pour sortir les secteurs des griffes des politiciens, parce que ce qui s'observe, ça dérange. Le texte est clair, ce sont les enseignants, et les dernières instructions, si je ne m'abuse pas, de l'inspecteur général a laissé une ouverture aux partenaires. Donc voilà les deux catégories de personnes ou de structures où doivent être issus les surveillants. Mais malheureusement, ce sont les présidents des assemblées provinciales, ce sont des gouverneurs, ce sont des personnalités politiques, ce sont d'autres institutions qui imposent maintenant aux animateurs provinciaux des surveillants. On a documenté à Mouamba une liste présente.
Oui, nous continuons donc nos échanges. Votre sonnette d'alarme va surtout attirer l'attention des autorités à ce que l'enseignement, à ce que l'éducation ne devienne pas un commerce. Alors, concernant les examens d'État, qu'avez-vous observé de manière particulière en rapport avec cette préoccupation? Y a-t-il eu des enveloppes qui ont circulé, des élèves vers, par exemple, les surveillants, les correcteurs ou d'autres acteurs de l'enseignement en faveur des enfants pour essayer d'influencer leur verdict final de réussite ou pas?
Bon, en toute responsabilité, maintenant, je ne saurais pas vous dire avec détail parce qu'on a déployé sur l'ensemble du territoire approximativement 600 observateurs. Aujourd'hui, c'était la fin. Il faut qu'ils se retrouvent entre eux, qu'ils fassent des rapports et remonter l'information pour que ce qu'on peut prendre comme position ait de bases solides. Mais dis-moi, quelques cas que je vous ai dit ici, à Kamina, à Pueto aussi, ce sont des cas sommaires, mais ce qui est sûr est que la question de la corruption, c'est endémique, c'est une question qui concerne toute la nation, tous les pays. Si je me base, puisque nous parlons des épreuves de cette année, je ne peux me prononcer sur cette question avec précision que si les éléments nous sont remontés par les membres, certains ont été acceptés par les responsables provinciaux, quelques-uns les font comme bénévoles de l'organisation. Moi-même, je suis à Kikwiti parce que muni d'un document officiel du ministère, donc il faut que tous ces éléments nous remontent, analyser pour donner avec exactitude ces différents cas que l'on peut décrier. Mais jusqu'ici, s'il faut parler des actes de marchandisation ou qui concernent que les âmes ont bon hôtel, c'est plutôt en tout cas jusqu'ici en ce qui concernait par exemple le frais fixé pour la session ordinaire. Mais heureusement, le ministère avait publié par le service, je crois, de la communication des différents tableaux synoptiques qui indiquent la fixation des frais à travers la République, qui a quand même aidé à ce que les choses se passent plus ou moins bien, malgré que la publication est intervenue en retard. Effectivement, on a attendu, documenté ça et là à Kinshasa, par exemple, au niveau du Grand Collège Moderne à Selembao, où on demandait aux enfants $150 pour constituer les frais d'accompagnement, les frais d'accompagnement de l'examen d'État, qui est effectivement le frais de correction ou de suivi. Il y a des cas comme ça qui nous ont rapporté, mais pour avoir un tableau de manière générale, il faut que les éléments nous soient remontés par les différents observateurs qui étaient déployés et que les épreuves ont pris fin aujourd'hui. Donc il nous faut un temps d'analyse et de pénétration de tous ces éléments.
Merci à tous les trois. Nous continuons donc cette émission. C'est le moment pour nous d'ouvrir notre standard pour accorder aussi la parole à tous ceux qui nous suivent à travers le monde grâce à toutes nos différentes plateformes. Il y a par exemple Chris qui nous écrit et dit combien d'argent que notre pays a bénéficié pour les finalistes, mais qu'on se pose la question de combien d'emplois tous les diplômes qui vont réussir, ils seront... il écrit, et ce n'est pas toujours très clair dans la pensée. David qui nous dit, nous saluons ceux qui se sont mobilisés pour que ces examens se passent tels qu'ils se sont passés. Il y a Josué Lahara qui dit « Les autres modifient les programmes nationaux chez nous. Nous continuons de demeurer avec l'ancien programme national qui ne sert à rien quand nous allons à l'étranger. » C'est son point de vue. Et cet autre auditeur qui lui écrit, il écrit « Les autres se mobilisent contre la mauvaise gouvernance. » Mais chez nous, c'est l'ambiance seulement. Nous allons maintenant écouter d'autres auditeurs par leur propre voix. Ils ne sont pas encore en place. Nous allons revenir à vous, Jacques Odia Moussounaï, inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il a été aussi observé à la clôture de l'administration des épreuves ce jeudi que lorsque certains élèves sont sortis, ils se sont lancés dans le dévergondage, dans les dérapages. Certains ont déchiré leur tenue, d'autres se sont retrouvés presque nus, d'autres ont consommé des substances difficiles. C'est une scène qui se reproduit plus ou moins après année après année. Est-ce qu'il est possible que l'inspection ou le ministère de l'enseignement se charge de ce problème?
Merci monsieur de la question. C'est un problème général et un problème qui intéresse tout le monde. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, l'a rappelé. Hier, j'étais en contact avec elle. Elle me l'a rappelé. L'année passée, vous vous rappellerez également, on a évoqué ce problème. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, on évoque ce problème et nous faisons ce qui est notre possible. C'est-à-dire, nous intéressons les services attitrés pour aider, pour contrecarrer ce genre de dérapage. Vous vous rappelez, il y a des patrouilles de la police nationale à travers la ville, à travers les grandes villes également, même dans l'arrière-pays. Nous sensibilisons également les parents. C'est également, je le dis, c'est le problème de tout le monde. Il faut, je ne sais pas si vous pensez que l'inspecteur général, à lui seul, il doit avoir un bâton pour surveiller tous ces candidats, tous ces élèves qui terminent leurs épreuves les derniers jours. Je ne pense pas. C'est le problème de tout le monde. C'est également un problème d'éducation. Si un enfant ne peut pas écouter ses parents, si un enfant ne peut pas écouter les enseignants qui lui demandent de garder sa quiétude jusqu'à la publication des résultats, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Nous, nous avons le devoir de continuer et même un jour, je crois que je prendrai je vais proposer cette mesure. Si on trouve une école qui s'organise de cette manière-là, il y a moyen de la sanctionner. Je ne voudrais pas décourager ceux qui se sont livrés à de tels dérapages, mais je constate que ça se fait réellement. Mais vous aurez constaté, comme l'a dit tout à l'heure Serge Bondedi, que je salue également en passant, que le phénomène diminue quelque peu. Alors regardez, constatez, faites la comparaison avec l'année passée 2023. Vous verrez que les bars ne fonctionnent pas tellement. Mais également, il faut féliciter le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui est en train de fermer des boutiques ou des bars qui font des tapages diurnes ou autour des institutions publiques telles que les écoles. On les bloque. Cela, c'est un effort de tout le monde. Nous devons le faire. La radio telle que vous êtes là, vous pouvez continuer à sensibiliser nos jeunes qu'elle ne doit pas se livrer à de tels dérapages. Ça les décrédibilise, Allô, vous m'entendez?
Nous vous entendons, Jacques Odia Moussounaï. Et d'ailleurs, okay, c'est l'occasion pour nous de vous faire réagir à ces commentaires de nombreux auditeurs, mais spécialement pour cet auditeur qui nous appelle depuis Boudia. Nous revenons à vous tout à l'heure, Jacques Odia Moussounaï, pour réagir à votre au commentaire qui vous est adressé. Nous allons plutôt dans cette introduction donner la parole à cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa, André Ilunga, et c'est Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, qui pourra réagir à ce commentaire.
C'est Monsieur André Irungandaba à partir de Kinshasa. Les modes en vigueur d'organisation de ces examens doivent être revus, tout comme le système d'enseignement dans son ensemble au sein de notre pays. Rien de neuf par rapport aux mauvaises habitudes décriées depuis toujours. Nos enfants, du moins la grande majorité, n'attendent que ce moment et sont sûrs de réussir, quand bien même nous les voyons s'absenter de cours et surtout ne jamais revoir la matière en privé à la maison. Une réussite dans ces conditions est inexplicable pourtant. De sérieuses réformes dans ce secteur sont vivement attendues. Nous avons remarqué comme progrès, par exemple, que cette année on a maîtrisé tous les vacarmes qu'il y a après les examens. Ça, c'est déjà un progrès par rapport aux années passées. Le reste, nous souhaitons que les choses changent et c'est vraiment notre souhait de vivre.
Jean-Claude Mbabazé, votre commentaire.
Ben oui, en tout cas, c'est que je suis d'accord avec ce que dit notre auditeur Ilunga. Je crois qu'il a raison. Donc, nous avons tous besoin que les choses changent positivement. bien évidemment, c'est dans cette façon-là d'organiser les examens d'État. Vous savez qu'avec le système de, par exemple, de coaching, où en tout cas les gens vont aller, ils peuvent même cocher, un chanceux qui n'a même pas à maîtriser son cours peut y aller, il coche et par hasard, il a des points. Et que donc, nous, en tout cas, c'est vrai qu'on n'a jamais été, en tout cas, nous, en tout cas, on n'est pas d'accord avec ce système-là. Et que donc, un système où un élève va s'expliquer devant ses enseignants, comprendre ce qu'il avait étudié, ça peut quand même aider à bien l'évaluer. Et surtout aussi donner des diplômes aux gens qui le méritent, parce que comme vous le savez, il y a des fois où même des enfants qui sont des génies à l'école mais échouent seulement parce que peut-être qu'il a été frustré et puis il va mal cocher et il manque son diplôme. Mais si c'était vraiment un examen où il peut en tout cas s'exprimer, mettre sur le papier tout ce qu'il a étudié, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais également par rapport au comportement, je crois qu'il y a quand même un effort de ce côté, parce que, comme au Nord Kivu, nous avons vu quand même un communiqué du gouverneur qui a interdit toutes ces pratiques-là, même si ça n'a pas été respecté, et que donc il y a encore un effort à faire de ce côté.
Merci Jean-Claude Mbabazé. Nous allons continuer d'accueillir les auditeurs de Kinshasa. Pour vous, Serge Bondé, secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education et coordonnateur de la campagne dénommée École Eza Mombongote, nous allons avoir cette réflexion toujours de Kinshasa.
C'est Japheth Eunga depuis la ville de Kinshasa. Nous félicitons le gouvernement ainsi que l'inspecteur général pour l'organisation de ces épreuves qui ont été déroulées dans la tranquillité sur l'étendue du territoire congolais. Mais rien n'empêche que nous puissions relever quelques failles du gouvernement dans l'organisation de l'éducation en RDC. L'éducation est au rabais dans notre pays à cause des non-prises en charge des enseignants par le gouvernement congolais, ce qui fait assez que les agents éducatifs pratiquent la corruption. Souvent, dans chaque épreuve, on parle du mot « laboratoire ». Ces pratiques fragilisent l'éducation. Les élèves ne veulent pas bien étudier à cause de cette pratique, et cela se passe même aux yeux des services de renseignement. Nous demandons au gouvernement de sanctionner ces actes qui n'honorent pas le pays et fragilisent l'éducation.
Serge Bondedi.
Oui, effectivement, il a dit vrai. Globalement, sur l'ensemble du pays, je crois que le général Odia l'a dit, mon frère de la société civile du Nord qui vous l'a aussi bien dit, et notre auditeur l'a dit. Globalement, en tout cas, les choses se sont relativement très bien passées sur l'ensemble du pays. Notre ami a fait un constat qui est vrai, c'est sur le niveau d'instruction de nos finalistes, et puis des questions liées à la fraude et à la tricherie. Je crois que cette question elle est beaucoup plus transversale, et il faut reconnaître la multidimensionnalité de ces cas. Aujourd'hui, les griffes des politiques saisissent tous les domaines de la vie, y compris les secteurs de l'éducation, au grand pleur des acteurs, de ceux qui sont souciés des valeurs. Et il faut dénoncer aussi, une fois de plus, c'est la méritocratie qui est assassinée par les politiques. Si un gouverneur, si un honorable, si un ministre, si un député vous impose un animateur provincial, vous impose un chef d'établissement, mais parfois il ne réalise pas les conséquences que cela entraîne même dans le fonctionnement de la gouvernance éducative. Ce sont des questions, comme je venais de dire, qui ont un caractère multidimensionnalité et la transversalité. Il faut qu'à un certain moment, au plus haut niveau de l'État congolais, que des options claires soient soit donnée et soit prise pour éviter que ce qui est pratiqué comme anti-valeur par ceux qui dirigent affecte le système ou les secteurs. Raison pour laquelle il est parfois difficile des campagnes que nous menons, si on dit qu'il n'y a pas des avancées, aujourd'hui nous constatons tous, après examen d'État, on n'a pas assisté à des scènes extravagantes parce que les gens ont ouvert les oreilles, les gens ont fait preuve d'avancer, d'aller vers de l'avant. Il faut que toute la nation, tous les décideurs accompagnent aussi les efforts qui visent à lutter contre la fraude. Effectivement, il a dit, les niveaux de traitement du personnel enseignant jouent aussi un rôle important. Si les gens vivent dans la précarité, il est difficile de résister à des sollicitations de la fraude. Donc il faut qu'à tous les niveaux, à toutes les étapes, l'État s'assume et je crois ça va arranger beaucoup de choses. Ce qu'on décrit, les labos, ce qu'on décrit, la fuite, tout ça, tout ce qu'on décrit, tout le monde a une part de responsabilité. Est-ce que les parents aujourd'hui acceptent que leurs enfants redoublent des classes? L'argent que les enfants amènent pour payer les labos, ainsi de suite, où est-ce qu'ils en trouvent? Ce sont aussi les parents, d'où il y a aussi une part de responsabilité pour nos amis partenaires, associations des parents d'élèves, de sensibiliser aussi les leurs. Nous, nous faisons notre part, à chacun aussi de jouer sa part de partition.
Merci Serge Bondedi. Jacques Odia Moussounaï, inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'auditeur qui voulait s'adresser à vous, avoir votre réaction, est désormais prêt. On écoute cet auditeur qui nous appelle de Bounia.
Je suis Alon Tepiens Merveille, je vous appelle depuis la ville de Bounia. Il est encourageant de savoir que la grande session d'examen d'État 2023-2024 s'est déroulé sans incident majeur dans plusieurs régions du pays. Il est également important de souligner que l'engagement des autorités et des enseignants a assuré le bon déroulement de cet examen. Cependant, il est crucial de noter que chaque centre d'examen d'État peut avoir ses propres défis et difficultés spécifiques. Il serait donc nécessaire de consulter les rapports officiel des autorités éducatives pour obtenir un état complet de la situation. Car cela ne tient, à peine sorti du centre d'examen d'État, j'ai vu une vidéo circuler dans les réseaux sociaux où les élèves finalistes ont déchiré les uniformes d'assez, je ne sais pas si c'est une citoyenneté comme le ministre de l'Éducation nationale venait de chantier les noms. Il y a à peine du pays sur la place à transformer ces finalistes et, du coup, qui vont entamer une université dissipée.
Jacques Moussounaï, vous avez en partie déjà un peu répondu à sa préoccupation, surtout concernant le mauvais comportement des élèves à la fin de leurs épreuves, mais il a appelé à attendre peut-être les jours qui viennent avant de faire une conclusion, un bilan global. Est-ce que ouais, c'est votre sentiment ou vous pensez qu'à cette heure de la question, à ce stade de la problématique, vous avez déjà tout ce qu'il faut?
Oh, mais je partage entièrement la préoccupation de notre frère. Nous l'avons dit, mais Serge, Jean-Claude et tous les autres ont dit que globalement ça s'est bien déroulé et les scènes de ce genre-là diminuent, n'est-ce pas, petit au fur et à mesure. Nous espérons avoir la fin du monde. Avant le retour du Christ, nous aurons parlé de phénomène zéro dans ce sens-là. Mais il faut continuer comme tout le monde l'a souhaité. Il faut continuer. Il y a déjà accalmie, ça va dans le bon sens, mais il faut continuer comme tous les autres le reconnaissent. Lui également, il a reconnu. La vidéo à laquelle il fait allusion, elle est réelle. Ça se fait à Kinshasa, dans un centre ou dans un autre, deux, trois, quatre centres, ça se fait. Mais il faut continuer à chercher à anéantir ce système. Et voilà. Mais je voudrais avec... Allô, vous m'entendez?
Très rapidement, oui, allez-y, terminez votre pensée très très rapidement.
Ah, d'accord. Je voudrais revenir à un problème que M. Jean-Claude a évoqué au début de son intervention, qui est bonne, je la partage, cette intervention-là, totalement. qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, le problème de niveau, du profil des enseignants, mais également, comme il l'a souligné, le climat dans lequel nos élèves passent leurs épreuves, sous le crépitement de balles. À quoi nous nous attendons? Si les centres ne sont pas bien organisés, si les enseignants ne viennent pas régulièrement à l'école pour une raison ou une autre, est-ce que nous aurons le niveau réel de nos enfants?
Alors,
donc je partage également ton point de vue.
Tout à fait, Jacques. Il faut aller de l'avant. Tout à fait, Jacques Odia Moussoungaï, vous interpellez donc les autorités compétentes en mesure donc de garantir le confort à tous les élèves de la République. Vous êtes inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique et nous allons clôturer l'émission par là. À quand exactement, avec certitude, la publication de ces résultats?
Certitude, non. Je ne suis pas dans le secret de ce diable. Certitude, non. Mais nous avons un échéancier que nous voudrions bien respecter. Comme vous le savez, la correction prend 20-30 jours maximum. Donc, à la fin de ce mois, prenons 3-4 jours avant le 30 ou 3-4 jours après le 30, ça pourra aller. Donc, il ne faut pas, en ce moment précis, fixer une date précise. Ce serait hasardeux de mon côté de le faire. Patientons, mais nous mettons les bouchées doubles pour que ça se passe vraiment d'arrivée et que nos lauréats aient des résultats avant la rentrée académique, avant la rentrée scolaire. Voilà ce que nous faisons. Heureusement, de ce côté-là, il faut féliciter le gouvernement qui a mis de moyens là-dessus. Nous avons acquis de nouvelles machines, des ordinateurs pour la correction, mais également l'encouragement des opérateurs de ce côté-là. Ça se fait déjà. On songe à leur petite collation et je crois que les gens sont motivés. On va travailler d'arrache-pied pour que nous puissions respecter bien notre échéance.
Monsieur l'inspecteur, on vous a attribué l'annonce selon laquelle la proclamation commencera tout au plus tard à mi-août. Est-ce que c'est cette date-là ou après réflexion, vous pensez que peut-être cette date-là ne sera pas forcément tenue?
Non, c'est trop loin. Je n'ai pas parlé de mi-août. Je crois que c'est un lapsus le chef de celui qui l'a dit. C'est en tout cas avant mi-août.
Merci. Merci beaucoup.
À la fin de ce mois de juillet.
Merci beaucoup et espérons donc que ces résultats soient suivis.
Et si nous parlons de mi-août, ce sera la fin de la publication. Peut-être la fin de la publication. Mais le début, c'est avant cette date-là.
Voilà. Souhaitons que pour vous, comme pour ces élèves, tout se passe bien, que ce soit dans les meilleures conditions et le plus tôt possible pour tout le monde. Merci. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, avons-nous tout dit? Sinon, que pouvons-nous encore ajouter avant de nous séparer ce soir?
Oui, merci. Donc, je pense que je ne sais pas quelle mesure, en tout cas, prévue à l'inspection générale par rapport à la récupération de tous ces enfants qui n'ont pas pu terminer les examens, notamment à Remeka, où il y a eu crépitement des balles et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu passer leurs examens. Est-ce qu'il y a une mesure, en tout cas, qui peut être appliquée pour sauver, en tout cas, ces enfants? Mais également, il y a aussi des enfants qui n'ont pas pu faire les examens parce que les centres ont été peut-être délocalisés dans un endroit très éloigné, d'autres ont carrément fermé, alors qu'il y avait quand même des enfants qui devaient faire les examens. Est-ce que il y aura des mesures? C'est pourquoi, en tout cas, nous pensons que l'inspection générale, en tout cas, pouvait quand même voir dans quelle mesure récupérer tous ces enfants, afin de donner aussi la chance à tous ces enfants meurtris par la guerre, la chance aussi d'avoir quand même les diplômes. C'est ce que nous pouvons en tout cas solliciter, mais également, comme nous le disons toujours, c'est de demander aux autorités compétentes de tout faire pour que la paix et la sécurité reviennent au Nord Kivu. Ce n'est pas impossible si, en tout cas, le gouvernement s'y met avec toute l'énergie.
Merci Jean-Claude Mbabazé. Avant de donner la dernière parole à Serge Bondedi pour définitivement mettre la clé sous le paillasson de l'émission de ce soir, monsieur l'inspecteur, en deux, trois phrases, y a-t-il quelque chose qui va être fait pour ces enfants qui n'ont pas pu effectuer leur examen, soit parce que leur centre était trop loin, soit parce qu'on a délocalisé subitement, soit parce que ils sont en permanent déplacement?
Oh, c'est préoccupant ce que le compatriote vient de soulever. Il faut rassurer ses enfants. S'ils sont innocents, et s'ils n'ont pas passé, nous attendons le rapport au courant de la semaine qui vient. Et il y a deux stratégies, il y a deux réponses à donner à des cas pareils. Soit on fait une session spéciale pour ces candidats-là, ça s'est déjà fait dans ce pays, soit qu'on neutralise une journée. Pour être un peu plus clair, nous avons 4 journées. Si une journée seulement n'a pas été exécutée, il y a moyen de la neutraliser et de compter sur 3 qui ont eu lieu. Cela est possible. Mais je ne me prononce pas encore. J'attends le rapport de ce côté-là, de l'inspecteur principal provincial et de tous les autres partenaires qui ont été déployés de ce côté-là. Et nous allons nous décider. C'est pas le problème de l'inspecteur général seul. Il y a un conseil de délibération et nous donnerons la réponse idoine au moment opportun.
Merci. Secrétaire général de l'ONG Young Men Action for Education et coordonnateur de la campagne dénommée École Ezamombongote, Serge Bondedi, que pouvons-nous retenir pour clore l'émission de ce soir?
En tout cas, ce que je peux dire comme mot de la fin pour cet entretien assez intéressant est que les bonnes pratiques qui ont été observées au cours de cette édition soient consolidées et maintenues. Ici, je fais allusion à la publication par le ministère d'un tableau synoptique reprenant tous les frais de la session ordinaire, mais je crois l'année prochaine, si cela peut prendre en charge tous les frais, commençant par l'inscription au rôle, hors session, jusqu'à la session ordinaire, ça réduirait davantage les différents cas de marchandisation et de marchandage de frais de l'examen d'État. En ce qui concerne le problème qu'on a soulevé sur les critères et choix des intervenants, nous savons que le ministère subit une pression qui est au-delà de son poids maximum. Nous allons engager et proposer des réflexions pour maintenir, renforcer la qualité de différents intervenants. Ici, nous parlons beaucoup plus de surveillants. En ce qui concerne la performance des chefs de centre, nous pensons que l'inspection doit redoubler des efforts pour que le chef de centre soit à la hauteur des défis qui les attendent en ce qui concerne les réunions avec les officiels, la tenue de différents outils de travail, et ainsi de suite. Concernant les enfants, je crois que c'est une question de responsabilité. Cette année, peut-être, on n'a pas assez tenu les assemblées publiques de sensibilisation des élèves dans la lutte contre la fraude qu'on a eu à faire à Kananga, à Kolwezi, à Mbanzangu et ailleurs, peut-être par manque de soutien aussi, si le gouvernement peut penser à cela, parce qu'il faut davantage responsabiliser les enfants. Mais il y a aussi un constat qu'on a fait, de moins en moins les enfants sont un tout petit peu faibles dans l'actualité du pays, parce qu'il y a aussi un désintéressement. C'est aussi le rôle des parents d'initier les enfants à suivre les informations pour suivre l'évolution et l'actualité du pays. En ce qui concerne d'autres facteurs liés à la fraude, liés à la corruption, la sensibilisation doit continuer de manière à endiguer durablement et méthodiquement la fraude durant les épreuves. Mais aussi, nous voyons la partie visible de l'iceberg qui est l'examen d'État, mais tout commence au niveau des classes montantes. Nous continuerons à plaider pour qu'il y ait renforcement de mesures, de rigueur, pour contrôler les niveaux, la manière dont les élèves passent des classes au niveau des classes montantes. Il faut davantage renforcer les contrôles dans l'opération C7, le contrôle des dossiers de scolarité, pour que les candidats qui sont présentés à passer leur épreuve de l'examen d'État soient ceux qui méritent effectivement être candidats à l'examen d'État. Ça réduirait déjà en amont les différents cas qu'on a peut-être à décrier à la fin, alors qu'on pouvait en élaguer bien avant. Mais nous comprenons, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Un pays post-conflit avec un contexte politique, social, économique très délétère, mais nous devons aller vers de l'avant. Nous, on continuera à sensibiliser en termes de la campagne École des Hommes Bongoté. On demandera aux autorités d'être attentives et flexibles à ce que nous disons de manière en sorte que l'agenda de l'éducation avance, se stabilise et se consolide davantage.
Merci à tous les trois messieurs pour votre participation à l'émission de ce soir. Jean-Noël Mokondo, Guimaté, Hervé Voka, mais aussi effectivement Jean-Claude Nsiala m'ont aidé à produire l'émission de ce soir. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.